Bonsoir à tous. On va commencer, ça fera venir les retardataires. Écoutez, bienvenue à cette 84e conférence du Pôle Info Santé. Pour ceux qui viendraient pour la première fois, ces rendez-vous au nombre de 4 par an sont le fruit d'un partenariat entre le CHU, qui a une, parmi ses nombreuses missions, une mission d'éducation à la santé, rôle de prévention aussi, et l'Espace Mendès France, centre de culture scientifique, qui nous accueille ici et depuis bientôt 14 ou 15 ans. Nous allons tout de suite, je voudrais excuser l'un de nos intervenants, le professeur Halal, qui ne peut pas être parmi nous, mais les 3 personnes qui sont là vont faire une présentation, donc on va parler de la stimulation et des troubles du rythme cardiaque. Avant de leur passer la parole, je vous explique comment va se dérouler la soirée. Ils vont faire une présentation relativement rapide parce que le but de ces rencontres, c'est de permettre au grand public d'échanger avec des professionnels de santé. Donc vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions que vous voulez. Ces questions, vous pourrez les poser grâce aux micros qui circuleront dans la salle à la fin de la présentation. Si vous êtes trop timide, vous trouverez à l'intérieur des documents que l'on vous a remis des papiers vierges. Vous pourrez noter vos questions par écrit et les faire remonter. Et moi, je les donnerai au micro. D'ores et déjà, je vous signale que vous avez à l'intérieur de ces documents des informations complémentaires à ce qui va être dit ce soir et que vous pourrez comme ça emmener chez vous pour potasser un petit peu à la maison et compléter le sujet. Vous avez aussi un questionnaire d'évaluation. Merci de penser à le remplir. Ça permet d'essayer de répondre à vos besoins et d'améliorer toujours l'accueil de ces conférences. Voilà, j'espère que j'oublie rien. Je vous laisse la parole. Je vous laisse aussi vous présenter. Comme ça, moi, je ne travaille pas trop. Hein, et je reprendrai le micro après. Merci beaucoup.
Bonsoir.
Alors, vous parlez bien dans le micro, bien devant.
Oui, vous m'entendez ? Oui. Je suis le docteur Le Gall. Je suis praticien hospitalier au CHU de Poitiers et je m'occupe principalement de tout ce qui est de la rythmologie. Alors, je ne sais pas si on se présente tous les uns après les autres, et puis après, je pense qu'on enchaîne. Donc moi, je vais commencer par vous faire une présentation de tout ce qui est arythmie rapide, pour vous montrer un petit peu les modalités actuelles de traitement des différentes arythmies. Alors, la présentation va être courte. Si bien entendu il y a des questions plus précises, on fera un diaporama qui sera plus bien entendu précis. Si ça va marcher. Donc déjà pour mettre un petit peu les acteurs en place. Donc le cœur est un organe intrathoracique, quand même faut se le rappeler. Et pour l'atteindre, les voies les plus simples, c'est soit la chirurgie, bien entendu, classique, soit l'utilisation en fait des axes veineux et artériels. Pour ce qui est des traitements, des troubles du rythme cardiaque, on va utiliser principalement en fait les axes veineux fémoraux ou artériels, ou bien les voies. Je suis un peu haut, excusez-moi. Sous-clavières, qui vont nous permettre, grâce au réseau veineux et artériel, d'atteindre les cavités cardiaques. Alors, juste, le rythme cardiaque normal, c'est déjà quoi ? Parce qu'avant de parler de la pathologie, il faut peut-être quand même faire un point déjà sur ce qui est normal. Donc, le but, c'est d'apporter de l'oxygène aux différents... Excusez-moi. Le but, c'est d'apporter de l'oxygène aux différents organes. Donc, en cas d'activité physique, d'émotion, de fièvre, l'apport en oxygène doit augmenter. Pour cela, la fréquence cardiaque va alors s'accélérer. Au repos, au cours du sommeil, on va avoir l'inverse. La demande en oxygène va être plus faible. Et pour cette raison, on va avoir en fait un rythme cardiaque beaucoup plus lent. Ce que nous, sur quoi on travaille ? En fait, le cœur est divisé en plusieurs parties, avec le nœud sinusal, qui est en fait une sorte de démarreur cardiaque, qui va permettre de donner l'influx, qui va permettre d'envoyer le courant électrique, qui va entraîner une contraction de la partie haute du cœur, qui s'appelle les oreillettes, puis la partie basse du cœur qui s'appelle les ventricules, grâce à un système de fils électriques dont les principaux vont passer au niveau de la jonction entre les deux oreillettes et les deux ventricules. Le rythme cardiaque normal, on vous fait souvent des électrocardiogrammes en cardiologie, c'est pour voir quoi ? C'est pour voir en fait comment va se dérouler la contraction intracardiaque avec cette petite contraction ici qui est la contraction auriculaire et ici la plus grande, la contraction ventriculaire. Ça, c'est un électrocardiogramme normal. Un peu plus gros, où on voit bien, pour ceux qui voient moins bien, l'activité auriculaire et l'activité ventriculaire. Alors, on parle de tachycardie lorsque la fréquence est au-dessus de 100 par minute. Elle peut être normale ou elle peut être pathologique. On parle de bradycardie lorsque la fréquence cardiaque est inférieure à 50 par minute. Les arythmies, elles peuvent être régulières ou irrégulières. Tout dépend bien entendu du type de l'arythmie. Les arythmies cardiaques sont divisées en trois catégories en fonction de la zone cardiaque incriminée. Il va y avoir... Et encore un coup, Bruno. Les arythmies auriculaires, il y a deux noms principalement qu'on peut entendre, c'est le flutter et la fibrillation auriculaire. Ça correspond à une arythmie qui va débuter dans la partie haute du cœur, ici dans les oreillettes. Les arythmies ventriculaires, elles sont généralement de deux types, les tachycardies ventriculaires réelles et les fibrillations ventriculaires. Ensuite, il y a les arythmies qui peuvent être de la jonction entre les oreillettes de la partie haute du cœur et la partie basse du cœur, le ventricule. Et on appelle ça en fait les arythmies jonctionnelles. Elles sont de deux types aussi, les tachycardies de Bouvray et les tachycardies de Wolff-Parkinson-White. Les mécanismes des différentes arythmies, il y en a deux principalement. Soit c'est une zone isolée qui va entraîner la tachycardie, et on appelle ça un foyer sur le plan médical. Soit c'est lié à un circuit intracardiaque qui s'est créé pour différentes raisons, en fonction de la pathologie, en fonction de différentes choses. Et on va avoir en fait un circuit électrique qui va générer une tachycardie qui sera autonome. Donc là, j'ai mis dans cet endroit-là, mais bien entendu, toutes les tachycardies peuvent avoir ces différents mécanismes, que ce soit auriculaire ou ventriculaire ou jonctionnel. Les conséquences des tachycardies. Il va se produire une inadaptation du rythme à la demande en oxygène des organes. On va avoir une accélération anormale de la fréquence cardiaque qui va entraîner en fait un mauvais fonctionnement de la pompe cardiaque. On va donc avoir des symptômes qui peuvent être un essoufflement, une dyspnée d'effort ou de repos. C'est souvent lié à de l'insuffisance cardiaque ou une fatigue chronique, une asthénie. Plus la tachycardie sera rapide, anarchique et surviendra sur un cœur fatigué, plus la tolérance sera mauvaise. Le traitement des arythmies. Le traitement principal, ça sera le traitement médicamenteux, sauf dans le cadre de l'urgence, où souvent c'est le choc électrique externe qui va permettre de régulariser une tachycardie mal supportée. Actuellement, la plupart des tachycardies peuvent être traitées par l'ablation. C'est l'application d'un courant de radiofréquence qui permet de chauffer dans des zones très précises, limitées du cœur, pour détruire la zone incriminée par la tachycardie. Donc le but, c'est donc ça, de limiter la zone générant l'arythmie en utilisant une sonde que l'on va monter en intracardiaque. On va passer tout ça. Juste pour vous montrer, donc on va appliquer en fait une petite sonde. J'en ai amené qui vont pouvoir faire passer. Vous verrez comment ça se passe. Et par ces sondes, on va pouvoir chauffer sur une zone très très limitée du cœur pour arrêter et détruire la zone qui est génératrice de l'arythmie. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les locaux dans lesquels on travaille. Donc ici, c'est la salle qui va nous permettre de travailler sur les troubles du rythme. On a un appareil qui nous permet de nous repérer sur le plan radioscopie. Ici, ça va nous permettre d'enregistrer les électrocardiogrammes conventionnels, mais aussi intracardiaques. Cet appareil va nous permettre en fait d'accélérer ou de ralentir la fréquence cardiaque en fonction de ce que l'on cherche à vouloir montrer. Ça d'un peu plus près, donc on va pouvoir mettre tous les paramètres qui nous intéressent et envoyer des extrasystoles, donc des battements plus prématurés en fonction de ceux que l'on veut déclencher. Bien entendu, notre salle est équipée d'un défibrillateur au cas où une arythmie grave apparaissait, avec un chariot d'urgence, bien entendu. Donc ici, la préparation d'un patient, avec tout est fait en stérile, bien entendu, avec les sondes que l'on verra tout à l'heure, et le champ qui permet de protéger le malade et qui ne permet de faire apparaître que la zone qui va nous être utile. Voilà, pareil, on va continuer. Donc ça, ce sont des petits cathéters qui sont en fait des perfusions qui vont nous permettre de passer nos sondes dans la veine ou dans l'artère. On a un écran de contrôle où on est plusieurs travailler en salle qui nous permettent de faire les mesures de tous les paramètres que l'on cherche à valider ou invalider. Voilà, donc vous voyez, on a des voies qui nous permettent d'enregistrer en interne et l'électrocardiogramme périphérique. Pareil. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est pour les ablations des fibrillations auriculaires où on va travailler en fait au bloc opératoire et on va utiliser un système en fait un petit peu particulier qui va nous permettre de ne pas utiliser les rayons dans la plupart du temps. C'est un système de cartographie 3 dimensions. Donc on commence à le voir apparaître ici où on va avoir en fait une image reconstruite grâce aux sondes que l'on a en intracardiaque. Vas-y Bruno. On utilise bien entendu des sondes avec cette petite sonde ronde que vous verrez tout à l'heure qui nous permettent de bien enregistrer sur plusieurs dipôles et nos sondes de référence. Vas-y. Donc on va construire en fait une image grâce à ces sondes en se repérant sur une image scanner que l'on a fait bien entendu auparavant. Alors vous allez voir construire tranquillement le cœur et on va se retrouver avec les veines pulmonaires, par exemple ici, l'oreillette gauche. Vas-y. Donc on voit maintenant que c'est quasiment complet. On va maintenant relier le scanner à la cartographie que l'on a fait de manière à pouvoir travailler en intracardiaque directement. Où on commence à voir apparaître nos sondes en trois dimensions. Voilà, pareil, on voit les sondes bouger. Ici, en fait, on a mis une sonde qui permet d'enregistrer les tracés endocavitaires, comme on va voir après. Et autour de la veine, on va se repérer pour tous ces petits points-là. Ce sont des points d'ablation qui vont nous permettre d'arrêter la tachycardie. On se repère, bien entendu, avec des tracés endocavitaires, c'est le terme, où on voit la déconnexion de la veine pulmonaire, ici. Une fois que l'on a fait complètement toutes les quatre veines, vas-y, encore un coup. On se retrouve avec une ablation des différents massifs des veines pulmonaires des deux côtés et on y rajoute, dans certains cas, des ablations du toit de l'oreillette gauche ou de la partie basale de l'oreillette gauche. Voilà. Et à terme, donc vous allez pouvoir faire tourner, si vous voulez, le cœur en trois dimensions dans lequel on a travaillé grâce au scanner et on voit en fait les lignes d'ablation que l'on a réalisées. Donc, par la suite, donc, si vous voulez des renseignements plus précis sur tout ce type de tachycardie, on aura des diaporamas bien entendu plus exhaustifs sur les différentes pathologies concernées. Je vous remercie et je vais passer la parole à Bruno Degand.
Alors François a parlé des accélérations de la fréquence cardiaque qu'on pouvait traiter par l'ablation. Moi, je vais plutôt vous parler des rythmes rapides et des rythmes très lents qui nécessitent la mise en place d'une prothèse. Et donc, je vais rapidement passer sur ce qu'il a déjà dit. L'impulsion électrique naturelle, le pacemaker naturel du cœur, comme il l'a dit, est situé ici. Et l'influx va passer dans la jonction, comme il l'a très bien dit, pour aller toucher les deux ventricules, pour que les ventricules se contractent. Et ça donne un électrocardiogramme qui va être normal, qu'on peut enregistrer en consultation. L'impulsion électrique, quelquefois, ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que la batterie naturelle, le pacemaker naturel ne fonctionne pas. Et donc, on a un défaut d'allumage, en quelque sorte, un défaut de démarrage du cœur. Et donc, on a un cœur qui va se retrouver très lent. Autre possibilité, le fil, entre guillemets, le fil naturel électrique qui va permettre à l'influx de descendre au ventricule ne fonctionne pas bien. Et l'influx ne peut passer de l'oreillette au ventricule. Et donc, l'oreillette peut battre à 70, 80, 90 par minute, et l'influx ne passe pas au ventricule, et le ventricule, qui est la pompe du cœur, va être beaucoup plus lente, et donc on va se retrouver avec, dans les deux cas, un cœur qui va être extrêmement lent. Vas-y. Et donc, ça donne quoi ? Ben, quand le cœur est très lent, on va être obligé de mettre un stimulateur cardiaque, puisque le patient a des malaises ou des pertes de connaissance, puisque quand le cœur se ralentit, le cœur, le débit sanguin est insuffisant pour perfuser le cerveau manque d'oxygène et on perd connaissance. Et donc on peut avoir des malaises, des pertes de connaissance, ou quand le cœur est trop lent, simplement des essoufflements. Alors, dans un certain nombre de cas, on est amené à faire des explorations qui peuvent être nécessaires si les perturbations sont transitoires. Et comme vous le voyez ici, par rapport à l'électrocardiogramme que vous avez vu juste avant, là, le cœur est très lent et on est obligé de mettre un stimulateur cardiaque pour accélérer la fréquence. Vas-y. Premier stimulateur cardiaque, c'est 1958, deux Suédois, Senning et Elmquist, qui ont inventé un stimulateur cardiaque qui est l'ancêtre de tous nos pacemakers et qui est, comme vous le voyez, en fait un circuit électrique avec des piles qui étaient noyées dans de la résine, tout simplement, comme les fleurs qu'on met dans de la résine. Mais en fait, ils avaient simplement mis un bloc de résine avec une sonde qui sortait et ils avaient tout mis à l'intérieur et en espérant que ça marcherait. Et le premier pacemaker a duré quelques mois et le patient est toujours vivant. C'était en 1958. Et donc, Anne Larson, qui est le premier patient au monde à avoir eu un stimulateur cardiaque, est toujours vivant. Alors, l'implantation, ça se fait au bloc opératoire ou en salle de cathétérisme, comme vous l'a montré François Le Gall tout à l'heure, mais dans des conditions de bloc opératoire. Et on remplace, en fait, la batterie défaillante du cœur pour assurer le rythme cardiaque avec un rythme cardiaque minimal. Et ça permet d'avoir une vie normale. Ça nécessite simplement une surveillance régulière, mais on vit normalement avec un stimulateur cardiaque. Et le stimulateur est placé ici, au niveau de l'épaule. On va aller stimuler le ventricule ou l'oreillette grâce à une sonde qui est mise dans une veine. Et l'impulsion électrique part du stimulateur pour aller jusqu'au ventricule ou l'oreillette. Et on peut stimuler ou l'oreillette ou le ventricule. Dans les deux cas, on a, en appliquant de l'électricité, une contraction du cœur qui va être à une fréquence qu'on va déterminer. Quand le cœur est très rapide, là, on est aussi obligé de mettre une prothèse. C'est la deuxième indication. Vous verrez, j'ai amené quelques prothèses qu'on appelle un défibrillateur. Et quels sont les patients qui vont avoir besoin d'une prothèse ? Cette fois, ce sont des patients qui ont un risque de rythme extrêmement rapide, le rythme étant tellement rapide qu'on perd également connaissance, mais parce que le cœur est très, très rapide, souvent supérieur à 200 par minute. Et on a des patients qui ont fait une mort subite récupérée ou des gens qui ont des troubles importants de la contraction, en particulier après un gros infarctus, quand on a fait un très gros infarctus, quand l'artère du cœur s'est bouchée. On a une séquelle, le cœur ne se contracte plus et on va avoir une zone qui ne va plus se contracter et l'éjection du ventricule va être de mauvaise qualité. Et dans ces cas-là, on sait que les gens peuvent faire des troubles du rythme sévère qui vont aggraver, qui peuvent gêner la survie et entraîner des morts subites. Parfois, certaines maladies génétiques peuvent donner des troubles du rythme grave. Un exemple. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va à 250 par minute. Et à 250 par minute, le cerveau n'est plus oxygéné. Le cœur lui-même n'est plus oxygéné. Et si on ne fait pas quelque chose très rapidement, eh ben, on risque d'avoir une détérioration des organes, du cerveau, du cœur lui-même. Et ça peut aboutir à la mort du patient. Donc, dans ces cas-là, il faut aller très vite. Ensuite, le défibrillateur, qu'est-ce qu'il est capable de faire quand on a mis le défibrillateur ? Il peut arrêter les tachycardies tout simplement en envoyant des impulsions pour arrêter la tachycardie. Quand elle n'est pas trop rapide, l'appareil est capable de se dire « je vois une tachycardie, je vais essayer d'envoyer des impulsions » comme l'appareil qu'a montré François tout à l'heure, mais qui est à l'intérieur, dans le boîtier, et on va envoyer des impulsions qui ne sont pas ressenties par le patient. Et on voit cette arythmie rapide, l'appareil reconnaît cette tachycardie, il envoie 6 impulsions et la tachycardie s'arrête. Le patient n'a rien ressenti, juste peut-être l'impression que le cœur était un peu rapide, mais cette tachycardie s'est arrêtée dès qu'on a stimulé. Par contre, l'appareil est capable de dire également, suivante, que l'arythmie peut être extrêmement rapide. Et dans ce cas-là, comme ici, on a une arythmie qui est rapide. On ne reconnaît pas l'électrocardiogramme, mais l'appareil est capable de dire que là, il y a ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire. Le patient est en état de mort clinique. Il a perdu connaissance. Si l'appareil ne fait pas son choc, s'il n'y a pas d'efficacité, dans les 3 minutes, on va vous l'expliquer tout à l'heure, il y a des lésions irrémédiables et le décès du patient survient. Qu'est-ce qu'on fait ? L'appareil est capable de reconnaître cette arythmie, il va envoyer un choc et le patient retrouve un rythme normal. Donc ça, c'est le SAMU implantable, globalement. Alors, pour mettre un SAMU implantable, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut repérer et reconnaître les morts subites. Et c'est l'objet de la discussion qu'on va avoir après, parce qu'il faut connaître les gestes qui sauvent, et il faut avoir des défibrillateurs dans les lieux publics, parce que c'est bien d'avoir des gestes qui sauvent, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, et les défibrillateurs dans les lieux publics sont très importants. On va vous en reparler tout à l'heure. Vas-y. Troisième chose qu'on peut faire avec nos prothèses, c'est resynchroniser un cœur qui est désynchronisé. Sur cette image, on a modélisé un cœur et vous voyez que quand ça devient violet, le cœur se contracte. Quand ça devient rouge, le cœur se relâche. Non, pardon. Hop, pardon, excusez-moi. Alors que quand on a un cœur qui est insuffisant cardiaque, on va avoir un cœur qui est gros, globuleux, et vous voyez que le violet n'est pas partout. Il y a des zones qui se contractent en même temps que des zones qui se relâchent. Si on met juste celle-ci pour voir, l'appareil n'arrive pas à démarrer. Vas-y. Voilà, c'est bon, les deux démarrent. Vous voyez bien, très bien la différence. Ici, ça se contracte très bien. Ici, le cœur est globuleux et les couleurs ne sont pas pareilles. Vous avez toutes les couleurs. En fait, les zones se contractent pendant que d'autres zones sont en train de se relâcher. Et donc, on a besoin de resynchroniser tout ça pour que l'ensemble se contracte en même temps. Et ça, c'est le troisième intérêt de nos prothèses, c'est d'aller mettre une sonde sur une partie du cœur, une sonde sur une autre partie du cœur, et on va resynchroniser les deux ventricules. Vas-y. Alors, comment ça se passe ? Je n'ai pas voulu vous mettre une implantation avec le patient ouvert, les sondes qu'on monte. Donc, on fait une petite modélisation, et on a sur ce cœur, ici, quelquefois besoin d'aller repérer par une injection une veine dans laquelle on va mettre les sondes pour resynchroniser. Mais pour un pacemaker normal, on fait la même chose. On met une première sonde ici qui arrive dans le ventricule, une deuxième sonde qui va arriver dans l'oreillette pour resynchroniser les deux. Et puis la troisième sonde, c'est la plus difficile à mettre. C'est celle qui sont des matériels qui sont apparus il n'y a pas très longtemps, où il faut aller s'insinuer dans une toute petite veine pour aller monter une sonde qui va aller envoyer des impulsions électriques pour resynchroniser les trois parois, enfin les deux parois du ventricule et les cavités. Suivante. Donc, les appareils du 21e siècle sont un peu différents de ce qu'on a vu tout à l'heure. D'abord, on les a miniaturisés. Suivante. Ça, c'est les premiers pacemakers. Ça, c'est les pacemakers actuels. Alors, vous voyez, on avait quelque chose comme des gros cendriers, des téléphones portables. Les défibrillateurs eux-mêmes, ils étaient beaucoup plus gros et ils étaient tellement gros qu'on était obligé de les mettre en abdominal avec une sonde qui montait très haut parce qu'on ne pouvait pas les mettre sous la peau. Et vous voyez que les appareils sont miniaturisés. Ensuite, ils sont automatisés, comme je vous l'ai montré. Ce sont des appareils qui sont capables de reconnaître des arythmies et de prendre des décisions. Ils ont des mémoires extraordinaires, puisque les circuits se sont améliorés. Donc, à l'intérieur, on a tout ce qui s'est passé dans la vie du patient, au moins en statistique, et quelquefois des électrocardiogrammes qui sont très précis, qui nous aident beaucoup pour faire le diagnostic. La durée de vie est allongée. Avant, ça, les premiers pacemakers ont duré quelques mois, quelques années. Et maintenant, avec toutes ces fonctions, on a des pacemakers qui peuvent durer de 7 à quelquefois 15 ans. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Ensuite. Et nouvelle chose, c'est je dirais la télémaintenance, la surveillance à distance. Alors, ça ne supprime pas le contact avec le médecin. Le patient peut avoir, comme ce petit appareil, au pied du lit, cet appareil va enregistrer les informations qu'il y a dans le pacemaker ou le défibrillateur. Il va nous les envoyer par Internet et on va recevoir ces informations sur nos ordinateurs et on pourra, à distance, savoir s'il s'est passé quelque chose ou pas dans la vie du patient au moment où il a eu des symptômes. Autre intérêt, c'est que certaines anomalies peuvent nous prévenir à l'avance d'une décompensation possible du patient. C'est-à-dire qu'il y a des signes dont le patient ne se plaint pas, qui peuvent être avant-coureurs et enregistrés par l'appareil et nous faire appeler le patient en disant « Attention, il se passe quelque chose, il faut que vous reveniez nous voir ». Donc ça permet de surveiller le patient. Ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Ça ne peut pas être ajouté sur les pacemakers qui ont été mis auparavant. Alors certaines marques commencent à réfléchir à la transmission de données avec les téléphones portables, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, parce que les téléphones portables peuvent donner également des perturbations. Alors comme vous le voyez, on a des appareils qui sont efficaces et performants, soit pour accélérer le cœur ou pour arrêter les tachycardies, mais pour pouvoir arrêter les tachycardies et éviter les morts subites, il faut savoir les récupérer. Et je passe la parole...
Je te remercie. Jolie transition. Donc moi, je suis Sophie Poumaillou, je suis médecin urgentiste au SAMUM. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus pratique et un petit peu moins positif au départ, puisque je vais commencer par parler de l'arrêt cardiaque. Et je vais vous montrer comment on a besoin de vous, nous, au SAMU. Donc, arrêt cardiaque et défibrillation, on va commencer par des généralités. Donc, on va parler de l'arrêt cardiaque en extra-hospitalier, donc celui que vous êtes susceptible de rencontrer au détour d'une rue. Et 7 fois sur 10, il faut savoir que l'arrêt cardiaque a lieu devant des témoins. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Ce qui est moins positif, c'est qu'actuellement, moins de 20% des gens qui sont témoins de cet arrêt cardiaque font des gestes de secours. Ce qui est plus positif, c'est que 4 victimes sur 5 ayant survécu à un arrêt cardiaque ont bénéficié des gestes pratiqués par un témoin. Donc en pratique, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que si on fait quelque chose, on a des chances de donner davantage de chances de survie à la victime. On peut passer. Alors reconnaître l'arrêt cardiaque, vous avez bien compris que c'est l'élément essentiel, c'est rapide, c'est facile. Première étape, il faut voir si on a une absence de conscience. Donc comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est conscient ou inconscient ? Eh bien, c'est quand il n'y a plus de réponse, plus de réaction à la parole ou à la stimulation. On parle à la personne, on lui dit « réponds-moi, serre-moi les mains, ouvre les yeux ». On demande des choses simples au patient, on parle fort, on essaye de le stimuler. S'il n'y a pas de réponse à cette stimulation, on en déduit que le patient est inconscient. Ensuite, si notre personne est inconsciente, à ce moment-là, il faut tout de suite vérifier est-ce qu'il respire. Alors comment est-ce qu'on regarde si quelqu'un respire ? Eh bien, on regarde, on voit si son thorax ou sa poitrine se soulève, et c'est assez facile de se rendre compte si quelqu'un, on écoute, on regarde le thorax, et s'il n'y a pas de respiration et qu'on a quelqu'un d'inconscient, alors on est face à un arrêt cardiaque, et là, il va falloir faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, on ne reste pas seul. Alors, si on est avec du monde autour, déjà, on appelle à l'aide. Ensuite, la chose primordiale, c'est d'alerter. Alerter qui ? Alerter le SAMU. Alors, pourquoi ? Parce que si on fait une alerte rapide, ben, on vient rapidement. Plus l'alerte elle est faite tardivement, moins on vient vite. Donc, plus vous allez rester longtemps tout seul. Donc, dès que possible, on alerte le SAMU. Alors, au SAMU, je ne sais pas si quelqu'un a déjà appelé le 15 ici, on téléphone au 15, et là, il y a une personne qui décroche et qui va vous demander pourquoi vous appelez. Et donc, c'est là où il faut préparer votre message en disant le plus rapidement possible, mais le plus clairement possible et le plus calmement possible, en sachant qu'on est dans une situation forcément de stress. Il faut que nous, on sache pourquoi vous appelez. Vous nous dites « j'appelle parce que je suis face à quelqu'un qui est inconscient et qui ne respire pas ». Ça nous suffit, on ne veut pas plus d'éléments. Hein. Où est-ce que vous êtes précisément? Alors ça, c'est quelque chose de primordial. Souvent, les gens disent « venez vite, dépêchez-vous ». Ben oui, mais vous êtes où? Tant qu'on n'a pas cet élément-là, on ne peut pas venir vous aider. Hein. Donc il faut prendre le temps de savoir où vous êtes précisément. Alors il y a des choses autour de vous, vous êtes près d'un château d'eau, vous êtes en face de la boulangerie, vous êtes... on ne vous demande pas forcément si vous êtes perdu au milieu de la rue, le nom de la rue, etc. Mais vous avez des repères visuels, il y a des gens autour de vous, il nous faut une adresse pour venir vous aider. Vos coordonnées, c'est un numéro de téléphone éventuellement. Maintenant, on est à l'ère du portable, donc la plupart des gens ont des portables. Ça nous permet, nous, de vous rappeler si jamais on ne trouve pas où vous êtes, ou s'il y a une évolution, ou s'il y a quelque chose. Donc, c'est ces trois éléments dont on va avoir besoin. Donc, plus vous nous les dites rapidement, moins on perd de temps. Ensuite, on vous passe le médecin du SAMU, c'est ce qu'on appelle le médecin régulateur. Le médecin régulateur, il a pour mission d'envoyer les secours adaptés. Quand on téléphone au SAMU, ça peut être pour savoir la posologie d'un médicament, combien je dois en prendre, j'ai oublié, je n'ai pas demandé à mon médecin, il est 22h, etc. Si vous appelez pour la personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, ça ne va pas être la même réponse. Le médecin régulateur, son rôle, c'est d'envoyer le moyen adapté à votre demande. D'accord ? Dans le cas de l'arrêt cardiaque, on va vous envoyer ce qu'on appelle une équipe SMUR. Un SMUR, c'est un service mobile d'urgence et de réanimation. C'est l'hôpital qui se déplace vers vous avec les moyens. Donc dans un SMUR, il y a systématiquement un médecin, un infirmier, un ambulancier. Et en attendant que l'équipe SMUR arrive vers vous, donc là le médecin fait partir l'équipe, et là le médecin régulateur va vous conseiller sur ce qu'il faut faire. Il va vous demander, est-ce que vous savez faire du massage cardiaque? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui savent faire? Et si vous avez besoin, le médecin régulateur va vous guider sur les gestes à effectuer. Donc la première chose que va vous demander le médecin régulateur, c'est de pratiquer un massage cardiaque. Il faut savoir que chaque minute compte dans l'arrêt cardiaque et qu'une minute de perdue, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc ça va très 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 vite. Donc il ne faut pas perdre de temps. On va parler de la chaîne de survie, on va y revenir. Alors faire du massage cardiaque, pourquoi ? Ça permet de faire recirculer le sang à partir du cœur dans tout le corps et ça favorise le transport de l'oxygène. Vous savez que la circulation sanguine, ça permet d'apporter de l'oxygène aux organes nobles, les organes vitaux. Alors, le fait de faire le massage cardiaque, ça retarde le plus possible la détérioration des fonctions vitales, et notamment les lésions cérébrales. Donc, plus on fait un massage cardiaque rapidement, moins on a de risques d'avoir des séquelles derrière. On masse comment ? C'est simple. Hein. Le massage cardiaque, c'est... on a la personne en général qui est allongée au sol puisqu'elle vient de faire un malaise. On applique les mains l'une sur l'autre au milieu du thorax, entre les deux seins. On met les bras bien tendus et on pratique 100 compressions par minute. Alors en général, on vous fait compter par séquence de 30 compressions consécutives. Alors de plus en plus, c'est ce que disait le docteur Degan tout à l'heure, il y a des défibrillateurs sur la voie publique où il va y en avoir de plus en plus et c'est effectivement une très bonne chose. Donc il faut prendre l'habitude de repérer ces petits appareils. Alors vous avez le logo vert en haut à droite là, qui est de plus en plus fréquent. On a aussi la version avec le logo rouge et blanc. Donc l'une et l'autre des choses existent. Donc ces appareils sont parfois dans des boîtiers, parfois accrochés directement au mur. Parfois, si vous travaillez dans des administrations, des choses à l'accueil, il y en a de plus en plus souvent, et ce sont des bonnes choses. Et il faut savoir que quand vous êtes face à un arrêt cardiaque sur la voie publique, si vous savez qu'il y a cet appareil dans le magasin d'en face, ou etc., vous avez tout à fait le droit de demander à quelqu'un d'aller chercher l'appareil ou vous-même d'aller chercher le défibrillateur. Puisque depuis mai 2007, ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire les non-professionnels, sont autorisés à utiliser des défibrillateurs automatisés externes. Donc il y en a de plus en plus. Ce sont des appareils extrêmement simples d'utilisation. Je vous en ai apporté un qui est un modèle de formation. Donc, ce sont toujours des appareils qui se présentent. Alors, il y a différentes marques, hein, différents modèles, différentes couleurs. Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. Mais le principe reste toujours très, très simple. C'est-à-dire, c'est un boîtier avec une paire d'électrodes. Alors, ce sont des électrodes adhésives, autocollantes. Et sur ces électrodes, c'est décrit où on doit placer les électrodes. Il suffit de les décoller et ensuite, merci, on a le cordon qui est relié à l'appareil. Et en fait, on appuie... J'ai pas branché.
Coller les électrodes comme indiqué sur le thorax rasé et sec.
Je vais passer l'autre micro, je vais faire avec deux micros. Donc en pratique, on ouvre l'appareil. Il y a toujours un bouton on-off, marche-arrêt. Hein. Bon, c'est en anglais la plupart du temps. On appuie sur l'appareil et l'appareil va nous donner ses instructions. Et il suffit d'écouter les instructions et en même temps, elles sont affichées, écrites. Là, il me demande de coller mes électrodes. Donc, on imagine que je colle les électrodes sur mon patient que voici. Hop. Et ensuite, d'appliquer mon cordon. Ensuite, l'appareil va analyser le rythme cardiaque. Même principe que tout à l'heure, c'est l'appareil qui fait tout.
Choc recommandé, ne touchez pas le patient, charge en cours.
Là, l'appareil me dit qu'il y a un choc indiqué.
Appuyez sur la touche choc orange.
Vous voyez, il y a une touche orange. Dans ce cas-là, la touche clignote. Et c'est tant que je n'aurai pas appuyé, l'appareil va continuer à me demander d'appuyer. Donc là, la seule précaution à prendre, c'est de dire « Attention, ne touchez plus le patient, personne ne touche le patient, moi je choque. Attention, je choque. » Et là, je choque.
Pratiquez alternativement 30 massages cardiaques et 2 ventilations jusqu'à réapparition de signes de circulation.
Et là, l'appareil va me dire ce que j'ai à faire ensuite, c'est-à-dire pratiquer le massage cardiaque. Alors, il y a ou il n'y a pas le mouvement avec les bips pour m'indiquer comment je dois masser, pardon, etc. Je vais arrêter là. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple d'utilisation. Alors c'est toujours le même principe. Alors il y a deux types d'appareils. Certains qui sont ce qu'on appelle semi-automatiques, c'est-à-dire c'est à moi, comme vous l'avez vu, d'appuyer sur le bouton pour déclencher le choc. Il y a d'autres appareils qui sont ce qu'on appelle entièrement automatiques. Et à ce moment-là, je n'ai juste qu'à poser les électrodes et l'appareil va lui-même faire son analyse et envoyer le choc électrique. Alors, les électrodes, il y en a une sous une clavicule, l'autre sous le sein à gauche pour être sur le trajet du cœur puisque le cœur se situe un petit peu à gauche du sternum. Donc, on va être sur le trajet. Donc, ce qui est important et ce qui est primordial, c'est que vous ne pouvez pas choquer quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, c'est l'appareil qui fait l'analyse. Vous, on vous demande de poser les électrodes et après, c'est l'appareil qui fait. D'accord ? Donc, voilà le schéma pour madame, entre autres. Donc, les appareils. Donc, il y a différents types, différents modèles. Toujours les électrodes dans un sachet qu'on ouvre au moment où on a besoin, un bouton en général marche-arrêt et un bouton pour choquer si c'est un appareil, ce qu'on appelle semi-automatique. Donc on pose les électrodes qui sont des électrodes adhésives, donc l'une sous la clavicule à droite, l'autre sous le sein à gauche. Donc les grands messages, c'est 1, j'alerte, je reconnais l'arrêt cardiaque. J'alerte le 15 pour ne pas rester tout seul et pour avoir les secours médicalisés qui arrivent. En attendant, je masse. S'il y a possibilité d'avoir un défibrillateur à proximité, j'amène l'appareil et je mets en place le défibrillateur qui va analyser. Alors, des fois, il y a besoin de choquer, des fois, il n'y a pas besoin. C'est actuellement aux alentours de 1 200 €. Ça dépend. Si vous en achetez plusieurs, les prix baissent. Des questions près. J'ai presque fini. Alerter, masser, défibriller. Donc c'est le grand message, mon message de la soirée là. Donc si l'appareil n'indique pas de délivrer un choc, on laisse les électrodes en place et on va faire le massage cardiaque jusqu'à ce que l'appareil, on le laisse brancher, nous donne d'autres indications. Parce que régulièrement, il va refaire une analyse et peut-être qu'il n'avait pas décidé de choquer au départ, mais qu'il va redemander à choquer plus tard. Si vous n'avez pas de défibrillateur à proximité, vous êtes en présence d'un arrêt cardiaque, il faut masser. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de défibrillateur qu'il ne faut rien faire. Donc il faut faire du massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Donc c'est ce qu'on appelle la chaîne de survie. La chaîne de survie, on parle de chaîne parce que c'est un ensemble de maillons et qu'on a besoin de tous les maillons, comme dans une chaîne. Si on n'a pas d'alerte précoce, si on n'a pas de réanimation cardio-pulmonaire précoce, c'est-à-dire ce que doit faire le témoin, ben on a beau mettre tous les moyens techniques, technologiques derrière, mais si le patient, il n'y a pas ses premiers maillons, nous on arrive derrière, mais on ne sert pas à grand-chose. On a besoin de ces premiers maillons pour avoir une défibrillation précoce, des soins médicaux efficaces, et derrière un pourcentage de survie qui augmente. Donc la chaîne de survie, elle permet de donner un maximum de chance à la victime. Mais chaque maillon est essentiel. Actuellement, il y a la Fédération française de cardiologie là, qui édite un petit guide. Si vous êtes dans une mairie ou une collectivité et que vous ne savez pas comment vous équiper en défibrillateur, c'est un petit guide qui conseille sur quel défibrillateur acheter, pourquoi, dans quel endroit le placer, comment on fait, etc., les critères de choix. C'est gratuit, le guide. Il y a des formations, puisque on dit que les défibrillateurs, c'est vrai, il y en a de plus en plus, mais il faut aussi, et c'est encore mieux, si la population a des minimums de notions de secourisme, et sait facilement reconnaître un arrêt cardiaque, et sait quoi faire, et sait comment masser. Donc, il y a des formations à destination du grand public qui existent. Il faut contacter les associations de secourisme, les sapeurs-pompiers qui sont là pour mettre en place des formations, qui sont des formations de durée diverse. Là, actuellement, il y a un nouveau décret qui est sorti début novembre et qui demande à ce qu'on fasse des formations aux alentours d'une heure pour former à alerter, masser, choquer. Donc ça, c'est des formations qui vont être mises en place à partir de 2010. Donc c'est des formations intéressantes qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et sinon, il y a des formations d'une dizaine d'heures qu'on appelle les premiers secours civiques où on apprend entre autres ça, plus les premiers gestes qui sauvent face à une hémorragie, une brûlure, etc. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Juste pour continuer le... Je vous montre, c'est ce que vous avez, le document dont vous parliez là à l'instant, donc une vie égale trois gestes. Vous trouverez à la sortie tout à l'heure, sur la table juste là, une série de documents de différentes associations, de la protection civile, de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, également de la Fédération française de cardiologie, qui vous donne, vous aurez des coordonnées si jamais vous souhaitez, et c'est souhaitable pour tout le monde, on l'a bien vu, connaître les premiers gestes qui peuvent sauver des vies. D'ailleurs, on se demande si ça ne devrait pas être obligatoire à l'école quand même, tout ça, non? Ça va devenir.
C'est dans les textes, mais il n'y a pas tout à fait les moyens derrière encore. Mais
bon, ça viendra.
Aux États-Unis, ça se fait dans les écoles. Il y a beaucoup d'enfants qui ont, il y a un certain nombre d'enfants qui ont sauvé leurs grands-parents qui avaient fait des problèmes.
Non, c'est sûr. On se
plus dit. Proche de nous, on a au lycée Berthelot à Châtellerault un élève au lycée, alors je ne sais plus si c'était première ou terminale, qui a sauvé son prof de maths qui a fait un arrêt cardiaque sur l'estrade. Il devait être bon en maths, mais.
Il n'y a pas besoin forcément d'être bon en maths, en tout cas pour sauver quelqu'un. Donc c'est vrai qu'on ne peut qu'encourager les gens à découvrir les premiers secours. Parce que je pense que là, on le voit sur le papier, mais c'est vrai que si on est confronté, j'imagine qu'on doit un petit peu paniquer. Il y a intérêt à ce que ça soit bien expliqué sur le défibrillateur. Là aussi, il y en a de plus en plus et c'est une bonne chose, notamment dans le milieu rural et pas forcément en ville, parce que là, le temps d'intervention est plus long. Écoutez, il y a beaucoup de questions, j'imagine, dans la salle. Il y a quelqu'un qui avait commencé à en poser. Les micros circulent. Il y a madame derrière. Il y a monsieur. Et il y a aussi monsieur. Alors, on va prendre ces trois premières questions. Vous avez pris. Il y a madame aussi. Mais allez-y, pendant que vous l'avez, puis vous passerez comme vous voulez. N'hésitez pas à relever le doigt si jamais j'ai pas repéré tout le monde.
Que ce soit les trois techniques, radiofréquence, pacemaker et défibrillateur, avec le recul, quels sont les taux de réussite respectifs?
En fait, tout dépend de la tachycardie que l'on cherche à traiter. Si on part sur les troubles du rythme qui sont pris en charge, on va dire, en aigu par le SAMU, l'ablation par courant de radiofréquence ne sera pas le traitement de choix. Ça sera dans un premier temps la défibrillation par un défibrillateur, bien entendu semi-automatique dans un premier temps, puis après un défibrillateur automatique implantable. Et c'est seulement qu'en troisième solution que nous, on va apparaître quand les patients qui sont déjà implantés auront toujours des troubles du rythme accessibles, je dirais, à une ablation. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils soient, ces troubles du rythme ? Il faut qu'ils soient quand même relativement bien supportés. C'est-à-dire que ce sont des patients qui vont bénéficier d'un choc par leur appareil de manière itérative. Et nous, on va essayer en fait de limiter les interventions de l'appareil en faisant une ablation. Mais c'est en dernière position.
Pour les autres, on a vu que pour le pacemaker, on peut vivre très longtemps avec.
Les taux de réussite du pacemaker, en fait, il faut plutôt parler de taux de complications plutôt que de taux de réussite, parce qu'on arrive toujours à implanter et toujours à stimuler le cœur. Les stimulateurs, vous verrez, si vous le voulez, il y a des sondes qui sont sur la table. Ce sont des sondes qui sont soit vissées dans le muscle cardiaque, soit avec des barbillons. On peut faire tourner les sondes. Donc ces sondes, en fonction du type de cardiopathie, peuvent se déplacer. C'est extrêmement rare, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Globalement, le taux d'implantation quand on a des troubles de conduction, on n'est pas loin de 100%. Pour ce qui est de l'efficacité des défibrillateurs internes, les patients qui sont non défibrillables sont exceptionnels, puisque les appareils sont réglés pour défibriller tous les types de patients.
Oui, question concernant le défibrillateur. Les électrodes doivent être mises à même la peau, ce qui veut dire que le patient, il faut les habiller si on est en plein hiver, s'il n'y a pas de risque... congestion, c'est peut-être pas évident. Puis suivant la tenue aussi, ou alors il faut avoir les ciseaux sur place pour couper le...
Alors c'est pas forcément évident de déshabiller la personne, mais c'est sûr que c'est sur un thorax nu ou le plus possible. Enfin, il faut enlever les couches ou les soulever, ou les enlever, c'est le plus efficace. Pour ce qui est de la congestion ou pas, si on fait rien, il meurt. Si on ne fait pas, peut-être qu'il aura une pneumopathie, une pneumonie derrière, mais on pourra traiter la pneumonie. Si on laisse habiller parce qu'on ne veut pas qu'il s'enrhume, il sera mort. Okay. Donc nous, en médecine d'urgence, c'est assez basique. Hein, c'est si on ne fait rien, il meurt. Si on fait quelque chose, on a une chance de le sauver. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se retrouver tout nu sur la voie publique, mais je pense que n'importe qui d'entre nous, on préfère être nu sur la voie publique avec nos électrodes plutôt qu'on ne fasse rien.
Merci.
Pour information...
J'avais une autre petite question rapide. Vous parliez de battement cardiaque rapide, qui arrivait à 200. Oui. Battement cardiaque lent. Oui. Bon, moi, je tourne 58-60 à peu près.
Bon. C'est très bien.
C'est un cœur de jeune homme.
C'est pas encore trop bas.
C'est un cœur de sportif.
Oui, mais...
Non, on parle de bradycardie à 50 par minute, mais ça dépend de l'entraînement physique.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un un sportif du Tour de France va avoir un cœur au repos qui va être aux alentours de 30 par minute. Mais la bradycardie ne va s'interpréter que dans le contexte. Chez quelqu'un qui n'est pas sportif, la bradycardie, on considère que c'est en tout 50 par minute. Il y a des gens qui supportent très bien 40 de fréquence cardiaque. Ça dépend de la tolérance. Quand ça commence à poser des symptômes, à donner des symptômes, là, on se pose des questions. Mais quelqu'un qui vit très bien avec une fréquence à 40 par minute, on ne va rien faire.
Merci.
Pendant que le micro circule, vous avez dans les rangs des... On vous fait passer. Donc, de ce côté-là, des pacemakers, notamment l'ancêtre, hein, je crois. Il y a l'ancien. Hein, voilà. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui, donc vous allez voir la différence... De taille, parce que pour ça aussi, la miniaturisation.
Alors, vous verrez un exemple de miniaturisation. Il y a un pacemaker qui circule dans une boîte d'allumettes.
Voilà, c'est ça.
Qui tient dans une boîte d'allumettes.
C'est moins lourd à porter. Hein. Et puis, de l'autre côté, c'est un défibrillateur. Hein, vous avez pu voir, et puis après on fera tourner pour que tout le monde voit le tout. Relevez le doigt, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur.
Bonsoir, Gérard Parnodeau, Milieu aux Anges. Je suis porteur d'un pacemaker depuis bientôt 10 ans. Le docteur Le Gall m'a fait 3 ablations qui apparemment n'ont pas réussi parce que je fais toujours des troubles de rythme. J'en ai eu une 4e également par le docteur Laborderie. Je voudrais vous demander si aujourd'hui il existe de nouvelles méthodes, parce que au moment de ma 3e en 2004, vous faisiez venir du matériel. À l'époque, vous m'aviez expliqué que c'était pour refroidir l'endroit de la chauffe.
Alors, si je peux me permettre...
Vous allez nous expliquer ça.
Alors, ma question est...
On refroidit l'endroit de la chauffe.
Il ne faut pas trop refroidir quand même.
Est-ce qu'il existe de nouvelles méthodes ?
Non, il y a des nouvelles méthodes, mais tout dépend en fait de la pathologie sous-jacente. Hein. Le matériel actuel est de plus en plus fiable, de plus en plus sophistiqué. On peut faire de plus en plus d'ablations complexes, mais tout n'est pas encore traitable. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Hein. Pour les ablations de fibrillation auriculaire, par exemple, on parle d'un taux de succès qui peut être jusqu'à 80%. Mais ce sont des fibrillations auriculaires particulières. Hein. Ce sont des fibrillations qui vont être générées par une petite zone dans les veines pulmonaires. Pour celle-ci, on peut être sûr quasiment d'avoir 100% à terme, avec plusieurs reprises, pour avoir un bénéfice à 100%. Par contre, pour les fibrillations, qui sont quand même une grande majorité des fibrillations, les taux de succès sont plutôt de l'ordre de 50%. Et ça, quel que soit le matériel utilisé. Donc en fait, tout dépend du problème cardiaque, de la taille des cavités cardiaques, de la pathologie sous-jacente, on va dire. Hein. Donc il faut interpréter tout en fonction de la pathologie des patients.
Merci. Une deuxième question. Au moment du remplacement de la pile, puisque bientôt elle va avoir 6 ans, est-ce que les dernières piles sont plus performantes également ?
Elles sont bien entendu plus performantes, surtout sur ce qui est des diagnostics qui nous permettent d'avoir. Par contre, sur la longévité, c'est à peu près stable, on va dire. Hein. C'est ce que disait le docteur Degand tout à l'heure, c'est qu'on est entre 7 et 15 ans selon l'utilisation de l'appareil, on va dire.
On avait l'impression, quand vous écoutez, que ces pacemakers étaient devenus des assistants, en fait. Ils ne sont pas... Simplement, ils ont un rôle d'alerte aussi.
Et ils nous permettent de faire des diagnostics beaucoup plus précis sur des symptômes que présente le patient. Que maintenant, les mémoires et les statistiques qui sont données dans l'appareil sont sur plusieurs années. Et on peut avoir des électrocardiogrammes enregistrés au moment des malaises. Et une fois qu'on a l'électrocardiogramme, une fois qu'on a un diagnostic plus précis, on peut appliquer éventuellement d'autres thérapeutiques, en particulier l'ablation, ou éventuellement faire des modifications de traitement. On a, pour ceux qui ont déjà eu un Holter, un enregistrement de l'électrocardiogramme sur 24 heures, dans certains pacemakers, on a des fonctions qui sont assez semblables à l'enregistrement Holter, qui ne sont pas aussi précises, mais on a des choses qui sont quand même assez informatives.
Je m'excuse, je vous poserai une 3e question.
Et ça sera la dernière, monsieur, parce que vous monopolisez le micro.
Très vite. Quelle est votre position pour la vaccination pour la grippe?
La grippe.
Pour les personnes qui prennent des médicaments genre flécaïne.
Si vous avez des problèmes cardiaques, vous êtes dans les patients à risque, il faut se faire vacciner.
D'accord. Je vous remercie.
Alors, il y avait plusieurs questions ici, dans le coin, et après, il y en aura au fond. Mais je crois que monsieur avait déjà levé le doigt. Allez-y, parlez bien devant le micro.
Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à pratiquer un choc avec le défibrillateur sur quelqu'un qui porterait un pacemaker ?
Alors, on peut choquer quelqu'un qui a un pacemaker, il n'y a pas de souci. Les seuls entre guillemets inconvénients qu'on peut avoir, c'est que j'ai dit tout à l'heure que la plupart du temps on demande de poser l'électrode sous la clavicule à droite, et parfois c'est là qu'est le pacemaker, et dans ce cas-là on demande juste de décaler l'électrode un petit peu pour pas abîmer le pacemaker de nos chers cardiologues, en fait. Donc, on ne veut pas leur griller leur pacemaker, mais ça n'empêche pas de choquer.
Hein. Mais quand vous dites on demande, c'est l'appareil qui demande parce non, qu'il le repère, non, qui demande parce
il que faut là... faire, il faut poser les électrodes sous la clavicule à droite. Quand il y a un pacemaker ou un boîtier, on le sent sous la peau, hein, ça se voit un pacemaker. On demande juste de décaler un petit peu. Donc c'est il faut savoir qu'il ne faut pas coller l'électrode directement dessus parce que ça ne met pas bien l'électrode à plat et que ça risque de moins bien fonctionner. Mais on peut tout à fait choquer quelqu'un qui a un pacemaker. Tu voulais rajouter ?
On travaille sur un risque vital. Hein. Donc, si l'appareil est à changer, il sera changé. Mais il ne faut pas réfléchir comme ça. Hein.
Il vaut mieux changer un pacemaker que mourir d'une mort subite sur un trouble du rythme grave.
On est bien d'accord. En plus, je ne suis pas sûr que dans l'action et puis dans l'urgence, on aille vérifier s'il a un boîtier. Ça se voit.
Enfin, si vous trouvez quelqu'un qui est par terre, qui ne respire pas, qui ne circule pas, vous ne posez pas ces questions. Vous mettez les patchs et puis on voit après s'il y a un pacemaker, bah, tant pis, s'il fallait le changer, on le change.
D'autant que ça se verra de moins en moins s'ils sont de plus en plus petits.
Voilà.
Est-ce qu'un pacemaker...
Sous l'os de la clavicule.
C'est ça.
Est-ce qu'un Madame. Pacemaker posé depuis 3 ans peut s'adapter à une télésurveillance?
Non, il faut qu'il soit prévu au départ. Il faut que ça soit prévu au départ, un pacemaker. Les pacemakers, en fait, qui ont une télécardiologie, comme ce que je vous ai montré, ont une antenne spéciale qui permet de discuter avec le récepteur. Là, je vous ai amené un échantillon de récepteur. En fait, c'est un téléphone GSM qui n'a pas de touche pour appeler. Mais l'appareil est capable d'interroger le stimulateur ou le défibrillateur, d'ailleurs, mais ne peut le faire que s'il y a une antenne et donc si l'appareil est prévu pour ça. Jusqu'à présent, toutes les marques ne le faisaient pas. Et une marque a beaucoup développé cette chose-là. Il y a cinq grandes marques de stimulateurs et de défibrillateurs et les choses sont en train de rentrer parce que intégrer ça avec la miniaturisation il faut que les informations soient précises. Ça prend du temps sur le plan technologique, il faut que ça soit fiable. Parce que si on donne un parachute à quelqu'un, il faut qu'on soit sûr qu'il puisse s'ouvrir. Donc si le système est intégré au stimulateur, il faut qu'on soit sûr que ça marche. Donc il y a dans les 5 ans qui viennent, quasiment tous les pacemakers qu'on mettra auront une télécardiologie quasiment.
Ce qui impliquera d'avoir quand même du personnel à l'arrivée pour lire et étudier, analyser tout ça.
Ça pose c'est un comme autre problème de démographie médicale et paramédicale. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir les informations, il faut avoir quelqu'un pour les analyser.
C'est comme la vidéosurveillance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde la caméra. Oui, monsieur.
Oui, je voudrais en revenir au pacemaker artificiel là, qui pallie l'insuffisance d'activité sinusale. Vous avez dit que dans les techniques du 21e siècle, il y avait une miniaturisation de ces pacemakers artificiels, mais je crois qu'il existe aussi d'autres recherches qui essaient de mettre au point des pacemakers biologiques. En d'autres termes, est-ce que vous avez des informations sur ces recherches ?
Bon, pour l'instant, c'est plus de la recherche. Hein. Par contre, sur le plan technique, ce qui est en voie d'évolution plus rapide, ce sont des pacemakers sans sonde. Donc pour l'instant, c'est peut-être le futur relativement proche, on va dire.
Qui apporte quoi?
Ça permettra de ne pas avoir déjà tout ce qui est complications liées au positionnement des sondes dans les veines qui vont passer en fait entre la clavicule et la première côte. Donc tout ce qui est mouvement, je dirais, important, risque de les casser à terme. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu... stressé quand les patients nous disent qu'ils font du motoculteur et autres activités sportives du week-end. Quoi.
il faut savoir, juste pour préciser les choses, que la sonde, c'est la zone fragile du circuit. Le stimulateur est assez solide. Vous pouvez mettre un coup de marteau, je ne vous conseille pas de le faire, mais vous pouvez avoir un choc pas trop important sur le stimulateur, il n'y aura pas de problème. La sonde, elle va bouger dans le cœur 100 000 fois par jour. Et il faut que cette sonde, elle tienne au moins 7 ans. Et quand on va changer un stimulateur, on change le stimulateur, mais on ne change pas la sonde. Donc on fonctionne actuellement avec des stimulateurs qui sont changés tous les 7 ans, mais des sondes qui peuvent durer 20, 25 ans, 30 ans. Et donc, il faut que cette sonde soit suffisamment souple, mais malgré tout, une grande partie des problèmes qu'on peut avoir, même si on est inférieur à 0,05% de problèmes, on va avoir des problèmes avec les sondes. Et si on supprime la sonde, si on trouve un moyen de supprimer la sonde et de stimuler le cœur sans la sonde, on diminue d'autant les problèmes qu'on pourrait avoir.
C'est à quel horizon ?
Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, parce qu'en fait, il y a des problèmes d'énergie. Il faudrait pouvoir déposer la sonde dans le cœur et s'en aller, et travailler par induction, à distance. Ce sont des choses qui sont assez compliquées. Les Français ne sont pas les derniers dans la recherche, en tout cas dans ce domaine.
En matière de recherche, ce serait bien peut-être de développer un petit peu. Donc, c'est surtout sur la miniaturisation, sur ces stimulateurs sans sonde. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont à venir dans les, disons, 10 ans
C'est la miniaturisation surtout qui est importante. Hein. Et puis, les fonctions diagnostiques qui nous sont apportées par ces appareils sont de plus en plus importantes. Mais c'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Sur le plan diagnostique, c'est très important.
Si je comprends bien, j'ai mon mari qui est...
Parlez bien devant le micro, oui, madame, s'il vous plaît.
Si je comprends bien, j'ai mon mari qui a un pacemaker depuis 6 ans et qu'on doit lui changer en début d'année prochaine. Donc la sonde restera toujours la même, alors.
La sonde restera en place.
Ah oui, la sonde,
on a des critères précis qui nous permettent de savoir si la sonde fonctionne bien. Oui. Et a priori, si ça marche depuis 6 ans et qu'il n'y a pas eu de modification dans les critères d'utilisation, la sonde restera en place. On va simplement dévisser sur les pacemakers que vous avez qui circulent.
Oui,
on a simplement une vis qui se déconnecte, qui permet de déconnecter la sonde. On laisse la sonde en place. On ouvre la peau, on remet le pacemaker sur l'ancienne sonde, on revisse et c'est fini. C'est assez court.
Comme changer une batterie, quoi.
On change la batterie du moteur, quasiment.
Oui, d'accord.
C'est un peu plus compliqué, quelquefois, sur du matériel ancien.
Ah oui, d'accord. Merci.
Il faudrait que vous demandiez un micro, madame, parce qu'on ne va pas vous entendre. Je vais vous passer le mien, mais il y avait quelqu'un aussi là-bas.
Quand le faisceau 10 est coupé, comment on fait pour changer la sonde ?
Vous nous expliquez le faisceau 10 parce que j'ai peur que...
Pour changer la sonde, en fait, comme vous le montre François, en fait, quand on coupe... Ah, pardon.
Le nœud sinusal. Ça va venir.
Excusez-moi. Ce dont vous parlez, madame, c'est un problème de dépendance au stimulateur. C'est-à-dire que quand on a coupé cette zone-là, le rythme, ce qu'on appelle le rythme d'échappement, c'est-à-dire que la fréquence que le cœur va sortir sans ce faisceau de His qui est coupé, va être très basse, voire inexistante. C'est ce qu'on va appeler la dépendance au stimulateur.
Donc on risque
l'arrêt cardiaque si on déconnecte le pacemaker.
D'accord.
Alors, on a soit des moyens médicamenteux qui permettent de faire réapparaître un rythme rapide. Enfin, rapide, entendons-nous.
Oui, oui.
On parle d'un rythme rapide quand le cœur est quasiment arrêté, oui. aux alentours de 60 par minute, avec des moyens médicamenteux. Ou bien on met une sonde temporaire, comme celle que François vous montre.
Mm-hmm. Donc c'est cette sonde-là que l'on passe en fait en intracardiaque par l'intérieur des veines, essentiellement la veine fémorale quand on change un pacemaker, mm-hmm. qui est extrêmement souple en fait sur le bout et qui permet de ne pas être traumatique et qui va nous permettre en fait d'envoyer une impulsion pour prendre le relais au moment où on débranche l'appareil, on en remet un autre.
Bon, bah, je suis contente. Allez.
Voilà.
Ça va.
Bonne nouvelle. Vous avez des sondes hein, qui passent aussi dans les rangs. Que je ne dise pas de bêtises.
Alors, on va vous faire passer les sondes d'ablation qu'on utilise pour les troubles du rythme également.
Celle-ci n'est pas ronde.
Parlez bien dans le micro, parce que là, je pense qu'on ne vous entend pas.
Donc celle-ci, en fait, c'est une sonde d'ablation qui va nous permettre en fait de mobiliser l'extrémité grâce à la poignée. C'est un peu dur avec une seule main. Et grâce à cela, en fait, on va pouvoir positionner notre sonde sur un endroit très particulier. Voilà, ça bouge. Alors c'est beaucoup plus rigide qu'une sonde diagnostique ou pour stimuler, comme je vous fais passer sur la gauche. Mais celle-ci nous permet en fait de se localiser précisément là où on cherche en fait à générer un courant de radiofréquence. Et puis vous verrez aussi passer voilà, une deuxième sonde qui nous permet en fait d'enregistrer sur tout le cercle différents électrocardiogrammes endocavitaires pour valider, je dirais, nos ablations de fibrillation auriculaire. Voilà, elle peut se resserrer et s'agrandir en fonction de la zone que l'on va chercher à enregistrer. Et elle bouge, bien entendu, dans les deux plans. Donc c'est grâce à ces sondes-là que l'on positionne par l'intermédiaire des veines que l'on va pouvoir travailler en intracardiaque. On va les faire passer.
Ce soir, on est très content d'être filmé et d'avoir la caméra pour voir le détail en grand parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez bien relever le doigt que je... Ah, c'est madame qui a le micro et puis on le passera derrière parce que le monsieur, ça fait longtemps là, qu'il lève le doigt.
L'espace maker en cas de décès, est-ce que ça s'enlève ?
En cas de décès, il faut les enlever.
Ah oui, il faut les enlever.
Il faut les enlever puisque le chauffage fait exploser en cas de crémation. Et donc, légalement, les gens qui s'occupent des patients qui sont décédés doivent enlever les stimulateurs.
Il faut une petite incision. Puis
il faut une petite incision, ils ferment, ils coupent les sondes avec l'incision.
Sinon, pour le massage, il n'y a pas de contre-indication, c'est ma dernière. Il n'y a pas de contre-indication. Et à quelle vitesse on fait comme ça
Alors, il n'y a pas de contre-indication, toujours le même discours. Hein. Si on ne fait rien, on est mort. Donc, il n'y a aucune contre-indication à faire du massage cardiaque.
Il faut aller assez vite quand même. Hein.
Alors, on a dit en fréquence, c'est 100 compressions par minute. Donc, ça va assez vite quand même.
Ouais, c'est physique.
Ok, merci.
Juste une remarque.
Allez-y.
On n'a pas parlé de ventilation. On a, parce que les gens ne me posent pas la question, je me permets de la poser.
Allez-y.
Parce que on nous a appris il y a de nombreuses années qu'il fallait ventiler. Alors, est-ce qu'on doit encore ventiler ? Parce que ça rebute beaucoup de gens finalement de ventiler.
Le bouche à bouche.
Voilà. Alors, il y a des réformes de secourisme régulièrement, en pratique à peu près tous les 5 ans, et en fonction des études, on modifie ou on améliore, en fait, pour voir la survie des patients. Autrefois, c'était impératif, effectivement, et c'est toujours mieux de faire massage et ventilation. Actuellement, on conseille aux gens qui sont rebutés ou qui n'ont pas envie de faire du bouche à bouche, de faire du massage cardiaque. Et par contre, si vous êtes en présence d'un quelqu'un que vous connaissez, que ça ne vous rebute pas et que vous savez faire du bouche à bouche, il faut faire les deux. Et on fait 30 massages et 2 bouche à bouche. Par contre, pour les gens qui n'ont jamais fait de formation, qui ne savent pas faire, le bouche à bouche est très difficile à faire. Donc on dit aux gens qui n'ont jamais eu de formation qu'il vaut mieux faire que du massage cardiaque et le faire bien, plutôt que d'essayer de faire du bouche à bouche ou de se mélanger les pinceaux en essayant de faire des deux. Donc mieux vaut faire une formation et savoir bien faire massage et ventilation, ce qu'on appelle bouche à bouche. Et quand on n'a pas eu la formation, on ne fait que le massage cardiaque.
Allez-y, monsieur.
Oui, 3 petites questions. La première, vous avez parlé donc d'ablation. Est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce qui est enlevé ? La deuxième chose, vous avez parlé à propos du défibrillateur, apparemment un problème d'âge. Est-ce que vous pourriez également préciser ? Et la troisième question porte sur les maladies dites génétiques, également, si vous pourriez nous informer. Je vous remercie.
Je vais commencer par l'ablation. En fait, quand on parle d'ablation, c'est qu'en fait, on va entraîner une lésion sur la zone de la tachycardie. Et quand on dit ablation, en fait, c'est ablation de la tachycardie. Hein, c'est un petit peu ce terme-là qu'il faut entendre. On n'enlève rien du tout dans le cœur, en fait. Hein. On enlève la tachycardie. D'accord ? C'est en abîmant le circuit de la tachycardie ou la zone qui génère l'arythmie. D'accord ?
Alors, pour ce qui est... Vous posiez une question sur l'âge et les défibrillateurs. Il n'y a pas de recommandation officielle sur l'indication ou la non-indication d'un défibrillateur chez un patient. Ça dépend essentiellement d'une part... La recommandation principale, il faut qu'il y ait une espérance de vie supérieure à un an. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre un défibrillateur à quelqu'un qui fait des troubles du rythme et qui va mourir d'autres choses parce qu'il a des pathologies associées. Le défibrillateur n'est pas la solution à l'arrêt cardiaque ou à la mort. On peut mourir d'autres choses que de troubles du rythme, et en particulier de défaillance cardiaque terminale, de cancer. Donc c'est l'âge physiologique qui nous intéresse dans l'indication. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est le type d'indication. Vous l'avez vu, il y a des patients qui ont déjà fait une mort subite et qui risquent de refaire une mort subite. Ces patients-là, on aura tendance à leur mettre un défibrillateur. Ça dépend des pathologies associées. Dans la prévention primaire, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est éviter que les patients ne fassent une première mort subite. Là, on est plus circonspect, puisque les services rendus aux patients dépendent essentiellement des pathologies associées. C'est-à-dire qu'on va être très, très attentif sur l'existence d'une cardiopathie chez les patients qui ont plus de 80 ans, par exemple, puisqu'on sait que c'est ces patients-là qui vont se compliquer. Parce que le défibrillateur, c'est une prothèse, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais comme le pacemaker, ce sont des prothèses et ces prothèses peuvent avoir des complications. Et les patients qui vont se compliquer, ce sont les plus fragiles. Donc, on va toujours apprécier le bénéfice et les risques, et donc pas mettre systématiquement comme des machines des défibrillateurs à des gens qui vont avoir une altération de la contraction du ventricule. Pour ce qui est des maladies, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Pour ce qui est des maladies génétiques, il y a des maladies qu'on découvre régulièrement. La plus connue, vous en avez peut-être entendu parler, la plus connue récemment, c'est le syndrome de Brugada. C'est une maladie à cœur sain et qui donne des morts subites. Des morts subites essentiellement la nuit et qui touche essentiellement des sujets jeunes, entre 30 et 40 ans. Ça peut être détecté avant, ça peut être détecté après. C'est une maladie qui était connue ancestralement plutôt en Asie du Sud-Est, mais on s'est rendu compte que, en fait, cette maladie, on l'a retrouvée partout dans le monde. Et donc, le cœur est normal. Ce sont des anomalies au niveau de la cellule cardiaque. Et donc, le seul moyen pour l'instant de traiter ces patients, c'est de leur mettre un défibrillateur pour éviter qu'ils fassent une mort subite. Et on a des critères très précis. Parce qu'il y a des patients qui sont à risque, des patients qui ne sont pas à risque dans ces maladies. Et c'est sur des critères extrêmement précis qu'on les implante.
Sur les risques, oui, les patients à risque, si on veut détailler un petit peu. C'est-à-dire, on n'attend sans doute pas que la personne fasse... Pour certains, peut-être s'est révélé à la mort subite, mais il faut espérer que ça soit autrement.
Ça dépend des symptômes présentés par le patient, ça dépend des antécédents familiaux, ça dépend de l'électrocardiogramme qu'a le patient, parce que ce sont des pathologies qui peuvent fluctuer dans le temps. Bon, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans le détail, mais ça dépend essentiellement des antécédents familiaux et des symptômes du patient.
Alors, il y avait beaucoup de questions, il y avait des mains qui se levaient là, il y a madame aussi qui demandait. Allez-y, profitez-en. Qui a le micro ? Je n'ai pas vu. Ah, vous êtes là, pardon.
Alors, au niveau des troubles du rythme, l'approche médicamenteuse est très lourde, que ce soit les bêta-bloquants, les enzymes de conversion, les diurétiques, les anticoagulants, je trouve que c'est très très lourd, avec des effets secondaires nocifs. Est-ce que si on pose un défibrillateur, ça supprime l'approche médicamenteuse ? Jamais ou
non. Non.
Partiellement ?
Non, parce que le défibrillateur, il n'est pas là pour agir tout le temps. Il va régler certains problèmes, il va traiter des arythmies, Mais le but, c'est qu'ils n'interviennent pas. Un appareil n'est pas vendu pour un millier de chocs. C'est à peu près 150 chocs. Donc si vous les utilisez en très, très peu de temps, on ne va pas le changer tous les 15 jours. Ça, c'est la première chose. Et puis, recevoir un choc par un appareil, quand on en a reçu un, on essaye d'éviter potentiellement d'en recevoir un second parce qu'on sait que potentiellement, ce n'est quand même pas particulièrement agréable. Donc, le but, c'est de mettre un appareil pour, si les médicaments n'étaient pas suffisamment efficaces, traiter l'arythmie.
Je veux dire, pour compléter ce que dit François, c'est que sur les troubles du rythme, par exemple, l'ablation, comme il le disait tout à l'heure, peut être une alternative, voire un complément au traitement médicamenteux. Et pour certains patients qui ne supportent pas les médicaments, l'ablation peut permettre d'arrêter les médicaments. Ça dépend du trouble du rythme, de type d'indication. Pour ce qui est des défibrillateurs, le défibrillateur est toujours associé à un traitement.
Madame, vous avez le micro.
Oui, je voulais savoir, y a-t-il incompatibilité entre un défibrillateur ou un pacemaker et les ondes électromagnétiques, les tables à induction, les micro-ondes, les
téléphones portables?
Je n'ai pas vu qui c'est qui parlait, mais...
Madame, allez là-bas.
D'accord. Oui, il y a des interférences, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Hein. Pour la vie courante, on parle beaucoup de gens nous posent la question du micro-ondes. Le micro-ondes n'a pas de risque particulier. Hein. Depuis que les portes sont bien closes, il n'y a pas de souci. À moins d'être dedans, il n'y a pas de souci. Et c'est moins simple, ça. Par contre, ce qui reste un petit peu dans la cuisine, un petit peu à risque, c'est les plaques à induction. Hein, donc,
alors, il ne faut pas s'en approcher.
Il faut essayer d'être à peu près à un mètre. C'est-à-dire qu'il faut
essayer de cuisiner comme ça.
Travailler avec les bras un petit peu tendus. Hein, donc, ça, c'est un petit peu un problème. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui, pour l'instant, nous ont posé des soucis sur ce point-là.
Il vaut peut-être mieux repasser au gaz, alors.
Oui.
Et les portables dans la poche?
Alors, le portable, il faut essayer d'éviter de le mettre dans une petite poche juste au niveau de la pile. Ça, c'est la première chose. Et puis, sinon, il faut essayer de téléphoner avec l'oreille opposée. Hein, quand on est à peu près à 50 cm, 25 cm, c'est bon.
De toute façon, il vaut mieux essayer pour tout le monde de ne pas le mettre dans la poche. Hein.
Juste sur l'écran, les quelques questions qu'on nous pose sur les interférences dans la vie quotidienne, il y a également les portiques anti-vol dans les grands magasins. Ne stationnez pas entre les deux portiques. Puisque ça, en fait, ces portiques sont très puissants, faits pour détecter des fils magnétiques et donc magnétisés, pardon. Et donc, le champ magnétique peut être suffisamment important pour inhiber le stimulateur cardiaque ou leurrer le défibrillateur. Donc, il faut passer. Il ne faut pas passer en courant dans le portique. Il faut marcher tranquillement.
Vous allez être pris pour un voleur.
Sinon, vous allez être pris pour un voleur. Même chose à la caisse. À la caisse, quand on arrive à la caisse, il faut poser faire très attention à ne pas rester entre les deux portiques en face de la caissière. Il faut respecter un mètre. Il y a peu de gros problèmes. Les moteurs électriques industriels, ça pose quelquefois des problèmes. Il faut faire attention pour les bricoleurs, aux perceuses anciennes qui sont mal isolées. Les bobines peuvent générer des champs magnétiques qui peuvent inhiber le stimulateur. Donc c'est souvent des vieux appareils mal isolés. Par contre, la contre-indication, c'est la soudure à l'arc.
On n'en fait peut-être pas tous les jours non plus.
On n'en fait pas tous les jours, mais il y a beaucoup de
bricoleurs. Il y a beaucoup de bricoleurs.
Il y a beaucoup de bricoleurs dans la région.
Dans la région. Alors, la Wi-Fi, c'est...
Pas de risque.
Alors, il y avait. Le micro est là. Il y avait madame qui avait demandé le micro il y a un petit moment. Ici aussi. Bon, pendant qu'il est là, on le laisse un petit peu. Ça évitera aux hôtesses de faire les allées et venues. Allez-y,
pour
je ne sais pas qui est
là. Ici, non, il n'y a pas de risque majeur à moins d'être vraiment collé au poteau. Hein. Non, non. Madame est une bricoleuse, je vois.
C'est souvent un problème d'isolation des fils. Quand il y a des problèmes, c'est un problème d'isolation des fils. Le truc tout bête, c'est la prise qui est sur une rallonge. sur une centrale vapeur, par exemple. Ce genre de choses, en fait, n'importe qui peut se prendre une décharge de 220 et le champ électrique peut être important dans ces cas-là. Il faut faire attention.
Je crois que le micro est là-bas.
Voilà. Donc c'était pour les chocs électriques.
Parlez bien devant. Hein,
le pour micro. Les défibrillateurs, est-ce que le fait de porter un stent, ça peut poser problème au moment de...
De porter quoi, pardon ?
Un stent.
Un stent ?
Enfin, pour les gens qui ont des stents.
Oui, ouais, non, mais bon, non, il n'y a pas de problème.
Pas de problème.
Le stent, il est impacté dans la paroi, donc c'est un ressort. Le stent permet d'ouvrir l'artère, et le stent, il est impacté dans la paroi, donc il n'y a pas de mouvement du stent dans la paroi quand il y a un choc électrique.
Et juste une deuxième question, pour les ablations de fibrillation auriculaire, comment en fait on peut savoir où est le foyer ectopique ? Comment on le repère ?
Si vous pouvez juste nous décoder là, ce que vient de demander la dame Pascal.
Alors, sur les fibrillations auriculaires, il y a deux types de fibrillations auriculaires. Il y a les fibrillations auriculaires paroxystiques, pour lesquelles on a montré en fait que les zones qui généraient l'arythmie étaient situées sur les veines pulmonaires dans plus de 95% des cas. D'accord ? Donc en fait, c'est d'abord sur l'électrocardiogramme de surveillance que l'on va faire à domicile, on va dire, qui va nous permettre de savoir si potentiellement on est dans ce cas-là. Et là, on va potentiellement en fait, isoler les veines pulmonaires, comme je vous avais montré sur les premières diapositives, avec la petite sonde qui tourne, que l'on va impacter en fait, dans une veine, et on va chauffer tout autour. Après, une fois qu'on a isolé les veines, si ce n'est pas une fibrillation auriculaire paroxystique, donc qui va être générée essentiellement par les foyers dans les veines pulmonaires, on va y associer en fait des ablations qui vont en fait diviser l'oreillette en des zones plus petites. Et on sait que quand on diminue la zone de l'oreillette en plusieurs petites parties, le risque de générer l'arythmie diminue. Parce que plus l'oreillette est grosse, plus le risque d'arythmie est important. Donc en fait, on sectionne un petit peu l'oreillette pour garder en fait une masse qui ne soit pas une masse suffisamment importante pour générer l'arythmie. Donc voilà un petit peu les deux techniques.
En fait, ça ne peut pas être dû à des micro-réentrées aussi.
La fibrillation auriculaire est toujours une micro-réentrée.
Mais bon, dans ce cas-là, non, là, pour les néophytes, peut-être vous pourriez demander, poser les questions à la fin de la réunion. Je ne suis pas sûre qu'on ait tous
compris. C'est toujours une micro-réentrée. Après, c'est le mécanisme de démarrage qui peut changer.
La dame là, qui avait demandé depuis longtemps le micro, et puis après, on ira de l'autre côté. Madame, si vous voulez...
Je voulais savoir s'il n'existait pas des phénomènes de rejet par rapport aux matériaux utilisés pour les défibrillateurs et les pacemakers.
En fait, le rejet, c'est surtout un rejet mécanique. Il n'y a pas de rejet au sens allergique du terme. Il n'y a pas d'allergie au métal qui a été décrit jusqu'à présent. C'est surtout un problème de contrainte sur la peau, puisque en fait, l'appareil est mis sous la peau, dans le sillon entre le pectoral et l'épaule. Donc, il est mis juste ici. Et donc, sur des patients qui sont assez maigres, on peut avoir une tension sur la peau. Et c'est surtout les contraintes, l'étirement de la peau qui fait qu'on peut avoir des érosions mécaniques et non pas des phénomènes de rejet au sens allergique du terme.
Vous vouliez aussi, pendant qu'il est là, allez-y, passez à votre voisin.
Merci beaucoup. Oui, on parlait de traitement médicamenteux tout à l'heure. Est-ce qu'on sait un peu plus sur ces nouveaux traitements qui anti-agrégants, plus forts que ce qui existe, dont il a été question à Barcelone, je crois, récemment, et qui pourraient éventuellement avoir le même succès que l'anticoagulant dont on voudrait éventuellement se débarrasser, dans la mesure où les deux feront 60% de réussite. Enfin,
pour l'instant,
je suis planché sur la question.
Pour l'instant, on ne les a pas encore complètement pour les arythmies cardiaques, la fibrillation auriculaire, mais ça ne va pas tarder. Très probablement, on va dire, allez, soyons sympas, dans les premiers 6 mois de l'année 2010, pour l'instant, ça marche. Les autorisations sont essentiellement pour l'orthopédie. Mais ça ne va pas tarder, c'est sûr. Mais ça ne sera pas valable pour tout le monde, par contre. Hein. Les gens qui ont des problèmes valvulaires, c'est bon. Voilà.
Est-ce que... Attendez, madame, prenez le... Attendez.
Alors, l'iode de la corde à Rhône.
Est-ce que ceux du fond, ils ne vous entendent pas, donc après...
Alors, pour ceux qui ne, connaissent pas, il y a un médicament qui traite les troubles du rythme qui s'appelle la cordarone, qui est le médicament antiarythmique quasiment le plus efficace, qui a été découvert par un laboratoire français il y a maintenant 40 ans et qui marche très très bien. Le seul problème, c'est qu'il a des effets secondaires. Il a des effets secondaires puisqu'il contient de l'iode sur la thyroïde, sur la peau, sur la cornée, puisque l'iode peut se déposer. Et donc, il y a un médicament qui s'appelle la dronedarone qui va sortir dans les études sont en train de se faire. Et en milieu d'année, la dronedarone sera disponible en France. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore, et comme pour les anticoagulants, on ne connaît pas encore son efficacité sur tous les types de troubles du rythme. On sait que ça marche. On sait qu'il y a certaines contre-indications qu'il n'y a pas avec la cordarone, mais ça sera disponible dans le courant de l'année 2010.
Madame, et puis après on le passera de l'autre côté.
Ah, avant de faire un choc électrique, est-ce que ça existe encore, l'échographie transœsophagienne?
L'échographie transœsophagienne. Vous savez que quand le cœur fibrille, quand le cœur est irrégulier, il n'y a plus de contraction de l'oreillette. Et n'ayant plus de contraction dans l'oreillette, on a une stagnation du sang à la périphérie qui peut former des caillots. Et donc, quand on fait un choc électrique, qui n'est pas cette fois pour arrêter une mort subite, mais pour arrêter simplement une fibrillation auriculaire, une arythmie, on est obligé de vérifier s'il n'y a pas de caillot dans le cœur. Il y a deux possibilités. Soit on est sûr que le sang est fluide depuis plus de 3 semaines et à ce moment-là, on peut se passer de l'échographie transœsophagienne. Soit il y a un intérêt médical pour le patient à faire cette procédure plus rapidement, auquel cas on fait toujours une échographie transœsophagienne. Ce n'est pas très agréable puisqu'il faut avaler un tuyau qui est gros comme ça. Enfin, pas ça, hein, juste gros comme ça. Il faut avaler le tuyau parce qu'en fait, la sonde d'échographie va regarder le cœur par l'arrière puisque en fait, l'œsophage est situé derrière l'oreillette. Et donc, on voit très bien les caillots quand ils sont dans le cœur. Et l'échographie transœsophagienne, on la fait toujours quand les gens ne sont pas bien anticoagulés et qu'on doit les choquer.
Il y avait une question, deux questions.
Merci. Quand vous nous avez parlé du défibrillateur externe, vous nous avez donné le mode d'emploi et à un moment vous avez dit il faut ne plus toucher le malade. Pourquoi? C'est une question de tension élevée ou ça va plus être efficace pour le malade ou quoi?
Alors il y a deux réponses, enfin deux causes pour lesquelles il ne faut pas toucher le patient. La première, c'est que si vous touchez le patient alors que l'appareil fait une analyse, ça parasite son analyse. Et l'appareil, il va vous dire, attention, analyse impossible, mouvement détecté. Et tant que l'appareil, ou tant qu'on bouge le patient, ou tant qu'on le touche, il ne peut pas faire son analyse. Donc là, c'est une perte de temps. Et autre chose, si vous ne touchez le patient juste au moment où on délivre le choc, on risque d'avoir un partage de l'énergie du choc entre le patient et vous. Donc c'est moins efficace pour le patient. Et vous pouvez être choqué, entre guillemets, avec un peu de l'énergie qui était destinée au patient, alors que vous n'en avez pas besoin. Alors ça, c'est des chocs en joules, donc on va pas rentrer dans les détails, mais on choque à 200 joules en moyenne, mais ça, c'est pas une tension. Mais
pour la défibrillation interne, pour les défibrillateurs implantables, quand on choque à 30 joules, on envoie 850 volts.
Mais avec un ampérage bas.
Mais avec un ampérage bas et sur une durée très courte. C'est pas comme quand vous mettez les doigts dans la prise pendant plusieurs secondes. C'est en millisecondes. Le choc, c'est très très court, donc on peut mettre des voltages élevés.
Madame, allez-y, puis vous passerez votre voisine derrière après.
Vous avez parlé de la formation de premier secours. Tous les combien il faut la renouveler?
Alors l'idéal, ce serait tous les ans à peu près de refaire ce qu'on appelle un recyclage quand on a fait une formation premier secours. Après, il n'y a pas d'obligation à faire ce recyclage. Mais tous les ans, c'est pas mal.
On perd si on ne pratique pas.
Il vaut mieux pas, faut espérer qu'on n'ait pas trop à pratiquer quand même. Mais justement, donnez-nous peut-être un peu le temps que ça peut prendre. Une formation, ça dure combien de temps pour...
Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a différents types de formations qui existent. Donc la plus classique, c'est les premiers secours civiques de niveau 1. Et ça, c'est une formation qui dure 10 à 12 heures. Il y a des associations qui font aussi des formations courtes sur une demi-journée. Et donc, dorénavant, à partir de 2010, on doit mettre en place des formations précises sur l'arrêt cardiaque et l'utilisation des défibrillateurs d'une heure. Donc, il y a tous ces types de formations qui existent.
Donc, on doit pouvoir donner un peu de temps. Madame.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la durée de vie des pacemakers et des sondes. Mais vous n'avez pas parlé des défibrillateurs implantables. Quelle est la durée de vie maintenant d'un défibrillateur implantable? Vous allez me dire que tout ça dépend du nombre de chocs qu'il aura donné, sans doute.
Oui, mais les défibrillateurs maintenant sont donnés pour entre 5 et 7 ans. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si c'est simplement un défibrillateur pour éviter les troubles du rythme, il va très peu stimuler. Il va pouvoir durer un peu plus longtemps. Par contre, un défibrillateur qui va resynchroniser en même temps, parce que les appareils peuvent faire plusieurs choses.
En cas de pathologie génétique, sur
des insuffisances cardiaques, quand on a besoin de resynchroniser et de défibriller, on peut mixer les choses. Et donc, on va avoir une utilisation permanente, puisque le stimulateur va pomper en permanence sur la batterie. Et donc, la durée de vie va être plus courte. Mais on est aux alentours de 5 à 7 ans.
Et la sonde, 25 ans aussi comme
les sondes de défibrillateurs, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des sondes qui sont beaucoup plus rigides que celles qu'on a fait passer, puisqu'il y a une zone qui sert à la défibrillation dans la sonde. Elles sont plus rigides et pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour dire si elles vont durer 25 ans, puisque ce sont des sondes qui sont, pour la plupart d'entre elles actuellement, existent depuis une quinzaine d'années. Mmh.
À peine, parce que le premier défibrillateur implanté à Poitiers, c'était en 1996.
C'est assez récent, en fait.
Et à cette époque-là, on avait implanté, je crois, qu'un dans l'année. Et c'est que depuis les années 2000, grosso modo, qu'on en implante beaucoup plus.
Vous avez des chiffres sur le type de patients, le nombre de patients au niveau local ou régional ? Ou national ? Il y aura une question dans le fond aussi, là-bas.
Dans les années 2000, on était très en retard par rapport à l'Allemagne, je crois, et surtout par rapport aux États-Unis.
Alors voici la carte. Voici la carte du nombre d'implantations de défibrillateurs en France par million d'habitants. Donc, il y a deux régions, on ne voit pas très très bien, mais il y a deux régions qui implantent un peu plus, parce que ce sont des zones où les populations ne sont pas identiques. Dans la région PACA, il y a plus de sujets âgés. Et vous voyez que le Poitou-Charente se situe dans la moyenne française. Ce qui est attendu dans les deux ans qui viennent, c'est entre 200 et 250 défibrillateurs par million d'habitants. Les États-Unis sont déjà aux alentours de 300 par million d'habitants. Mais les États-Unis ont une culture prothétiques, on va dire. Ils n'hésitent pas à implanter des défibrillateurs, même si derrière il y a beaucoup de complications. Parce que un défibrillateur, c'est quand même un corps étranger, donc il faut un peu réfléchir. Alors, c'est vrai que les grandes études qui font qu'on met des défibrillateurs, elles ont été faites aux États-Unis parce qu'ils ont une puissance de feu et une industrie qui leur permet de faire des recherches qui sont sur des grandes échelles, ce qui fait que on arrive à faire des implantations pour certaines études où il faudrait mettre 11 défibrillateurs pour sauver une vie. Mais l'étude est significative et donc on se doit d'implanter ces patients si on veut être dans les recommandations. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais on est un petit peu en arrière. La France récupère tranquillement son retard, en particulier sur l'Allemagne. Il y a des problèmes de remboursement parce que le défibrillateur, ça coûte 15 000 euros. Si on rajoute les sondes, qui sont entre 500 et 300 euros, entre 500 et 800 euros chacune, on va se retrouver avec des coûts de santé qui vont être très importants. Et plus on en met, plus on a de complications, et donc des coûts de complications qui sont importants. Il faut savoir si on rend service aux gens. On est toujours dans le bénéfice-risque. Le pacemaker, c'est un petit peu moins cher, mais il se met 40 000 pacemakers en France par an. Et donc, en 2009, on est aux alentours de 9 000 défibrillateurs.
Et en fait, le prix ne diminue pas tellement, malgré le nombre supérieur de défibrillateurs.
Le prix est fixé par le ministère.
Ah. C'est pas comme les écrans plats.
Il y a ce qu'on appelle un prix volume. C'est-à-dire qu'en fait, si il y a eu un accord entre le ministère et les industriels pour déterminer le prix du défibrillateur sur une base de 8 ou 9 000 défibrillateurs par an. S'il se met plus de défibrillateurs, les industriels sont payés moins, puisqu'il y a une enveloppe globale qui permet de payer les défibrillateurs qui est revue annuellement. Le pacemaker, ça dépend du type de pacemaker. On est aux alentours de 3 000 euros. Entre 1 500 et 3 000 euros, parce qu'en fait, les stimulateurs, 1 500, il n'y en a plus beaucoup à 1 500, mais les stimulateurs, c'est un peu comme les voitures. Vous avez les deux chevaux et vous avez les Rolls. Et donc, en fonction des pathologies qu'on a à traiter, on met des choses plus ou moins perfectionnées.
Ouais, c'est ça, oui. En fait, comme toutes les... Le prix, en fait, dépend s'il y a une sonde, deux sondes ou trois sondes. Voilà. C'est ça le...
Ah, vous voulez dire?
Alors pour l'instant, ça dépend des endroits, des départements. Actuellement, pour ce qui est de la Vienne, là, au niveau du SAMU, on est en train de faire une cartographie pour que surtout, à la fois au niveau du SAMU, quand vous faites l'alerte et quand vous téléphonez au 15 parce que vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, le médecin régulateur puisse vous dire où il y a un défibrillateur près de l'endroit où vous vous situez. Et que nous, quand on sait qu'on a à telle adresse un problème, on sache où est le défibrillateur le plus proche. Donc là, actuellement, on est en train de les recenser tous. Il y en a de plus en plus implantés. On est en contact avec l'ensemble des communes, des communautés de communes. Aussi, on a fait les démarches auprès des grandes structures, des magasins, etc. Et on est en train de faire la cartographie.
Allez-y.
Donc tout à l'heure, vous avez parlé de mort subite. Et donc j'aurais voulu avoir des précisions à propos de ce phénomène, donc cette maladie donc, cardiaque. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, en tant que témoin de sauveteur de premier secours, des gestes, un malaise, quelque chose qui pourrait faire penser à l'arrivée d'une mort subite, en fait?
En quelque sorte, vous voulez savoir s'il y a des signes annonçateurs qui nous disent qu'on va bientôt faire une mort subite.
Oui, et des signes qu'on pourrait détecter et en parler donc avec le SAMU.
Alors, il y a différents cas de figure, hein, mais très fréquemment, donc ces morts subites sont en relation avec un problème cardiaque. Et souvent, précédant la mort subite, on a une notion de douleur thoracique. Et on a quelqu'un qui se tient la poitrine, qui se plaint de douleur et qui ensuite s'effondre. Bon, ce n'est pas systématique et parfois il y a des gens qui ne disent rien et qui s'écroulent tout d'un coup.
Merci.
Et ensuite, il faut chercher s'il est conscient, pas conscient, s'il respire ou pas.
Donc le micro est là-bas. Je ne sais pas qui voulait poser une question. Ah, madame, allez-y.
Est-ce que ça rentre dans ce cadre? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le malaise vagal qui a été rendu célèbre récemment?
Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on est cardiaque quand on fait un malaise vagal?
Le malaise vagal peut être fait par n'importe qui. Il y a deux types de nerfs dans l'organisme qui vont gérer les fonctions de base. Vous avez le nerf qu'on appelle le nerf sympathique qui va accélérer le cœur et faire monter la tension, et vous avez le nerf parasympathique qui va ralentir le cœur et qui va faire baisser la tension. Quand vous faites un effort, c'est le nerf sympathique qui est prédominant. Quand vous dormez ou après le repas, c'est le nerf parasympathique. C'est pour ça qu'on a toujours tendance à somnoler après un bon repas. C'est plutôt parasympathique, ce qu'on appelle parasympathique. Et donc, quand vous faites un malaise vagal, en fait, vous avez une stimulation du nerf vagal qui est un nerf qui commande, donc, comme je disais, le cœur et la tension, mais qui est aussi en relation avec le tube digestif. Et donc, le cerveau peut interpréter des signaux qui vont le faire réagir et qui vont brutalement faire baisser la tension et faire diminuer la fréquence cardiaque. Et on peut faire une syncope due à un ralentissement progressif de la fréquence cardiaque. Mais souvent, c'est annoncé par des troubles digestifs, des sueurs, des choses comme ça, qui nous permettent, enfin qui nous permettent de faire le diagnostic a posteriori, mais souvent aux gens qui font des malaises vagaux, de prévenir les choses. C'est-à-dire il suffit de s'allonger, de mettre les pieds en l'air, le cerveau est perfusé, et le malaise va disparaître dans le quart d'heure qui suit. C'est souvent dans une ambiance chaude, bruyante, au cours d'un repas, c'est l'ambiance typique du malaise vagal. Mais ça n'a rien à voir avec la mort subite. Dans le malaise vagal, on continue à respirer, on peut prendre le pouls, et souvent il y a une conscience qui est normale au départ. Mais oui, mais avant, la conscience reste normale. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose.
L'angine de poitrine, la question. Mais j'ai des bonnes oreilles. Hein.
Oui. L'angine de poitrine, c'est en fait les artères coronaires, les artères qui en fait apportent l'oxygène au cœur, qui sont rétrécies et en fonction du travail demandé au cœur, c'est-à-dire en gros une accélération, il peut y avoir en fait des douleurs liées au fait que l'oxygène n'arrive pas d'une manière suffisamment importante. Ça, c'est un problème. Et c'est grosso modo la zone un petit peu avant les infarctus. Ou l'infarctus, où c'est vraiment une occlusion de l'artère complète. C'est-à-dire qu'elle est fermée complètement.
On arrive dans les dernières questions. Je vous préviens.
Oui, allez-y, je madame. Voudrais savoir, pour l'implantation d'un pacemaker, quel est le côté le plus favorable ? Parce que moi, on l'a mis à droite.
Le côté qui vous gêne le moins.
Ah, bon.
Le côté si vous êtes gauchère, peut-être.
On peut implanter à droite ou à gauche. Toutes les veines mènent au cœur. Donc, il y a quelquefois des situations particulières qui nous font préférer la droite ou la gauche, ça dépend des pathologies. Quand on est obligé d'aller faire ce qu'on appelle une resynchronisation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il vaut mieux implanter à gauche, puisque les sondes vont naturellement dans la grosse veine du cœur, parce que vous avez vu qu'il fallait faire un chemin très tortueux pour arriver au bout, et il vaut mieux être dans le bon sens pour pouvoir rentrer dans la grosse veine du cœur pour aller jusqu'au bout. Parce que si on passe par la droite, on a tendance à descendre vers le bas et on est
mais
très
moi,
gêné.
C'est à la suite d'un arrêt cardiaque.
Parce que le cœur était... Si c'est un pacemaker, c'est parce que le cœur était très lent. Donc le cœur s'est ralenti.
C'est qu'il faisait des pauses.
Voilà. Et donc, en fait, le pacemaker, on peut le mettre à droite ou à gauche. Si vous avez été, par exemple, perfusé du côté gauche au moment du malaise, on n'aime pas mettre le pacemaker du côté d'une perfusion parce que ça peut favoriser les infections. Il y a des choses comme ça qui nous font préférer un côté ou l'autre.
Voilà. Alors ça
c'est aussi simple que ça. Si vous avez une perfusion pendant plusieurs jours à gauche, on ne va pas mettre le pacemaker à gauche parce que, par définition, une perfusion, ça peut s'infecter. Même si c'est bien nettoyé, stérilisé avec de la bétadine, on mettra toujours le pacemaker de l'autre côté.
Merci.
Les chasseurs, c'est mieux d'avoir le
pacemaker à gauche. Ça dépend si vous tirez à droite ou à gauche.
Ils sont droitiers ou gauchers aussi.
Il faut mettre toujours le côté opposé, hein, parce que sinon...
Il y a un paquet de questions que vous devez poser avant. Hein.
Pose toujours ces questions. La question qui est toujours posée aux patients,
est-ce que vous êtes
chasseur ?
Et on a eu un patient qui nous a dit « Non, je ne suis pas chasseur. » Donc on a mis la perfusion était à gauche, donc on a mis le pacemaker à droite. Et puis deux jours après, il nous a dit « Mais pour le ball trap, je vais faire comment ?»
Ah bah oui.
On n'avait pas pensé au ball trap.
Monsieur, allez-y. Ça va être la dernière question ou bientôt.
Ah. Oui, bonjour. Après toutes ces observations, ces renseignements, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui suit ces interventions ?
Pour vous parler pour les pacemakers ou pour les défibrillateurs?
Oui. Les deux.
Pour les pacemakers, non, pas pour l'instant. Par contre, pour tous les patients à qui on implante un défibrillateur, on fait d'abord une consultation avant l'implantation, systématiquement, puisque c'est une prothèse active qui peut dégénérer des chocs. Et ceux qu'ils désirent secondairement sont suivis, oui.
Peut-être qu'on peut parler très vite du nombre de vies sauvées aussi avec ces progrès médicaux, les transplantations aussi qui peuvent être évitées.
Alors, les transplantations peuvent être évitées par la resynchronisation. C'est-à-dire qu'en fait, la resynchronisation a été un traitement qui nous a permis de retarder le moment où on amène les patients à la transplantation, puisque en fait, les patients qui arrivent à la transplantation sont ceux qui ne répondent plus au traitement par les médicaments. Et la resynchronisation a permis d'améliorer le pourcentage de contraction du ventricule, ce qui permet d'améliorer les symptômes, de remonter les traitements, puisque les patients n'étaient plus sensibles au traitement. L'association d'une resynchronisation permet de à nouveau augmenter les médicaments et permet aux patients de sortir des listes de transplantation, parce que le gros problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a plus de greffons. Il y a peu de greffons disponibles, et tous les moyens qui nous permettront d'éviter la transplantation seront bons à prendre.
Juste en complément par rapport à ce que dit Bruno Degan, c'est que la majorité des patients qui vont bénéficier d'un défibrillateur automatique implantable font partie en fait des populations à risque. Et pour avoir une petite idée, grosso modo, c'est qu'on a à peu près, on va dire, sur une population de coronariens à fraction d'éjection basse, ça représente un risque de mort subite quasiment de 30%. Et c'est cette catégorie-là, potentiellement, qu'on va essayer, bien entendu, de traiter avant que les premiers symptômes n'apparaissent.
Très bien. Il n'y a plus de bras qui se lèvent. On a fait le tour de la question. Bon, il me reste à vous donner un prochain rendez-vous avant que vous souhaitiez de bonnes fêtes, puisque c'est quand même, ça approche. D'abord, vous rappelez que vous avez les questionnaires dans le document qui vous a été remis. Remerciez nos intervenants pour cette conférence très intéressante, où on a appris beaucoup de choses. Et vous donnez rendez-vous l'année prochaine, en 2010, ce sera le 28 janvier. Un sujet très différent, nous parlerons de l'assistance médicale à la procréation. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt. Merci. Merci.